Proust écrivait dans son lit, ganté, environné de plaques de liège, il était dans une guérite de plaques de liège. Sa barbe et sa frange de mèche noire le faisaient ressembler au Carnot-Mort du musée Grévin, à quelques Capitaine Nemo de Jules Verne.
Ce soir, second épisode de notre série intitulée « Du côté de chez Marcel ». Effectivement, pendant toute la semaine, nous allons essayer de comprendre de quoi est tissée cette passion de la recherche du temps perdu, avec des amoureuses, des amoureux, des spécialistes de Marcel Proust, et en début de chaque émission, une lecture par Lou Doyon d'extraits de « Du côté de chez Swann ». Hier, vous avez peut-être entendu le grand spécialiste de Marcel, Jean-Yves Tadier, nous expliquait l'architecture générale de la recherche du temps perdu. Ce soir, ça sera Véronique Aubouy, qui est à la fois poète, artiste, performeuse, qui est tombée littéralement folle de Marcel. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique. Et ce soir, pour ce second épisode de Marcel Proust numéro 2, ça sera Jean-Louis Murat, La maladie d'amour.
C'est la maladie d'amour qui nous apprend à ne jurer de rien. C'est la nature de mon sang, par le sang où l'amour me tient. Et je passe toutes mes nuits en idée de bonheur au soleil de votre vie. Je ne sais dire votre nom, mon désir, ça je le savais. Et où est votre maison? Mon plaisir, ça je m'en doutais. C'est la maladie d'amour qui nous tient le corps. Cette odeur de toujours. Ces licornes qu'on effleure, son silence nous fait trembler. Par tous les yeux la lueur de celle qu'on reconnaît. Voilà parade d'amour, sexe qu'il faut ajuster sur la piste des beaux jours. C'est la maladie d'amour qui nous tient le corps trempé. C'est la manie des toujours qui sait si bien nous faire chanter. Sur le mâle lit de fleurs où s'échangent mille baisers. Et le rêve dont on meurt,
Un amour de Swann, épisode 2. Odette de Crécy retourna voir Swann, puis rapprocha ses visites. Et sans doute, chacune d'elles renouvelait pour lui la déception qu'il éprouvait à se retrouver devant ce visage, dont il avait un peu oublié les particularités dans l'intervalle, et qu'il ne s'était rappelé ni si expressif, ni, malgré sa jeunesse, si fané. Il regrettait, pendant qu'elle causait avec lui, que la grande beauté qu'elle avait ne fût pas du genre de celle qu'il aurait spontanément préférée. Il faut d'ailleurs dire que le visage d'Odette paraissait plus maigre et plus proéminent parce que le front et le haut des joues, cette surface unie et plus plane, étaient recouvertes par la masse de cheveux qu'on portait alors prolongés en devant, soulevés en crêpés, répandus en mèches folles le long des oreilles. Et quant à son corps, qui était admirablement fait, il était difficile d'en apercevoir la continuité à cause des modes de l'époque. Et quoiqu'elle fût une des femmes de Paris qui s'habillait le mieux, tant le corsage s'avançant en saillie comme sur un ventre imaginaire et finissant brusquement en pointe pendant que, par en dessous, commençait à s'enfler le ballon des doubles jupes, donnait à la femme l'air d'être composée de pièces différentes, mal emmanchées les unes dans les autres, tant les ruchers, les volants, le gilet suivaient en toute indépendance, selon la fantaisie de leur dessin ou la consistance de leur étoffe, la ligne qui les conduisait aux nœuds, aux bouillons de dentelle, aux effilés de jets perpendiculaires, ou qui les dirigeait le long du busque, mais ne s'attachait nullement à l'être vivant, qui, selon que l'architecture de ses franfreluches se rapprochait ou s'écartait trop de la sienne, s'y trouvait engoncé ou perdu. Mais quand Odette était partie, Swann souriait en pensant qu'elle lui avait dit combien le temps lui durerait jusqu'à ce qu'il lui permît de revenir. Il se rappelait l'air inquiet, timide, avec lequel elle l'avait une fois prié que ce ne fût pas dans trop longtemps. Et les regards qu'elle avait eus, à ce moment-là, fixés sur lui en une imploration craintive et qui la faisaient touchante sous le bouquet de fleurs de pensées artificielles fixées devant son chapeau rond de paille blanche à bride de velours noir. « Et vous, avait-elle dit, vous ne viendrez pas une fois chez moi prendre le thé ?» Il avait allégué des travaux en train, une étude, en réalité abandonnée depuis des années, sur Vermeer de Delphes. « Je comprends que je ne peux rien faire, moi, chétive, à côté de grands savants comme vous autres, » lui avait-elle répondu. « Je serai comme la grenouille devant l'aéropage. Et pourtant, j'aimerais tant m'instruire, savoir, être initiée. » Comme cela doit être amusant de bouquiner, de fourrer son nez dans de vieux papiers. Avait-elle ajouté avec l'air de contentement de soi-même que prend une femme élégante pour affirmer que sa joie est de se livrer sans crainte de se salir à une besogne malpropre, comme de faire de la cuisine en mettant elle-même les mains à la pâte. Vous allez vous moquer de moi, ce peintre qui vous empêche de me voir. Elle voulait parler de Vermeer. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Vit-il encore? Est-ce qu'on peut voir de ses œuvres à Paris pour que je puisse me représenter ce que vous aimez? Devinez un peu ce qu'il y a sous ce grand front qui travaille tant, dans cette tête qu'on sent toujours en train de réfléchir, me dire « Voilà, c'est à cela qu'il est en train de penser. Quel rêve ce serait d'être mêlé à vos travaux ?» Il s'était excusé sur sa peur des amitiés nouvelles, ce qu'il avait appelé, par galanterie, sa peur d'être malheureux. Vous avez peur d'une affection? Comme c'est drôle, moi qui ne cherche que cela, qui donnerais ma vie pour en trouver une, avait-elle dit d'une voix si naturelle, si convaincue qu'il en avait été remué. Vous avez dû souffrir par une femme, et vous croyez que les autres sont comme elle. Elle n'a pas su vous comprendre. Vous êtes un être si à part. C'est cela que j'ai aimé d'abord en vous. J'ai bien senti que vous n'étiez pas comme tout le monde. Et puis d'ailleurs vous aussi, lui avait-il dit. Je sais bien ce que c'est que les femmes. Vous devez avoir des tas d'occupations, être peu libre. Moi, je n'ai jamais rien à faire. Je suis toujours libre et je le serai toujours pour vous. À n'importe quelle heure du jour ou de la nuit où il pourrait vous être commode de me voir, faites-moi chercher et je serai trop heureuse d'accourir. Le ferez-vous? Savez-vous ce qui serait gentil? Ce serait de vous faire présenter à Madame Verdurin chez qui je vais tous les soirs. Croyez-vous? Si on s'y retrouvait, et si je pensais que c'est un peu pour moi que vous y êtes. Et sans doute, en se rappelant ainsi leurs entretiens, en pensant ainsi à elle quand il était seul, il faisait seulement jouer son image entre beaucoup d'autres images de femmes dans des rêveries romanesques. Mais si, grâce à une circonstance quelconque, ou même peut-être sans que ce fût grâce à elle, la circonstance qui se présente au moment où un état latent jusqu'à là, se déclare, pouvoir n'avoir influencé en rien sur lui, l'image d'Odette de Crécy venait à absorber toutes ses rêveries. Si celle-ci n'était plus séparable de son souvenir, alors l'imperfection de son corps ne gardait plus aucune importance, ni qu'il eût été plus ou moins qu'un autre corps, selon le goût de Swann, puisque devenu le corps de celle qu'il aimait, il serait désormais le seul qui fût capable de lui causer des joies et des tourments. Mon grand-père avait précisément connu, ce qu'on aurait pu dire d'aucun de leurs amis actuels, la famille de ces Verdurin. Mais il avait perdu toute relation avec celui qu'il appelait le jeune Verdurin, et qu'il considérait, un peu en gros, comme tombé, tout en gardant de nombreux millions dans la bohème et la racaille. Un jour, il reçut une lettre de Swann lui demandant s'il ne pourrait pas le mettre en rapport avec les Verdurin. « à la garde !» s'était écrié mon grand-père. « Ça ne m'étonne pas du tout. C'est bien par là que devait finir Swann. Joli milieu. D'abord, je ne peux pas faire ce qu'il me demande parce que je ne connais plus ce monsieur. Et puis, ça doit cacher une histoire de femme. Je ne me mêle pas de ces affaires-là. Ah, bien. Nous allons avoir de l'agrément si Swann s'affuble des petits Verdurin. » Et sur la même réponse négative de mon grand-père, c'est Odette qui avait emmené elle-même Swann chez les Verdurin. Les Verdurin avaient eu à dîner, le jour où Swann y fit ses débuts, le docteur et Madame Cottard, le jeune pianiste et sa tante, et le peintre qui avait alors leur faveur, auquel s'étaient joints dans la soirée quelques autres fidèles. Le docteur Cottard ne savait jamais d'une façon certaine de quel ton il devait répondre à quelqu'un, si son interlocuteur voulait rire ou était sérieux. Et à tout hasard, il ajoutait à toutes ses expressions de physionomie l'offre d'un sourire conditionnel et provisoire, dont la finesse expectante le disculperait du reproche de naïveté si le propos qu'on lui avait tenu se trouvait avoir été facétieux. Mais comme pour faire face à l'hypothèse opposée, il n'osait pas laisser ce sourire s'affirmer nettement sur son visage. On y voyait flotter perpétuellement une incertitude où se lisait la question qu'il n'osait pas poser. « Dites-vous cela pour de bon ?» Il n'était pas plus assuré de la façon dont il devait se comporter dans la rue, et même en général dans la vie, que dans un salon, et on le voyait opposer aux passants, aux voitures, aux événements, un malicieux sourire qui ôtait d'avance à son attitude toute impropriété, puisqu'il prouvait, s'il n'était pas de mise, qu'il le savait bien et que s'il avait adopté celle-là, c'était par plaisanterie. Sur tous les points cependant où une franche question lui semblait permise, le docteur ne se faisait pas faute de s'efforcer de restreindre le champ de ses doutes et de compléter son instruction. C'est ainsi que sur les conseils qu'une mère prévoyante lui avait donnés quand il avait quitté sa province, il ne laissait jamais passer soit une locution ou un nom propre qui lui était inconnu, sans tâcher de se faire documenter sur eux. Pour les locutions, il était insatiable de renseignements, car, leur supposant parfois un sens plus précis qu'elles n'ont, il eût désiré savoir ce que l'on voulait dire exactement par celle qu'il entendait le plus souvent employer. La beauté du diable, du sang bleu, une vie de bâton de chaise, le quart d'heure de Rabelais, être le prince des élégances, donner carte blanche, être réduit à Kia, etc. Et dans quel cas déterminé, il pouvait à son tour les faire figurer dans ses propos. À leur défaut, il plaçait des jeux de mots qu'il avait appris. Quant aux noms de personnes nouveaux qu'on prononçait devant lui, il se contentait seulement de les répéter sur un ton interrogatif qu'il pensait suffisant pour lui valoir des explications qu'il n'aurait pas l'air de demander. Comme le sens critique qu'il croyait exercer sur tout lui faisait complètement défaut, le raffinement de politesse qui consiste à affirmer à quelqu'un qu'on oblige, sans souhaiter d'en être cru, que c'est à lui qu'on a obligation, était peine perdue avec lui, il prenait tout au pied de la lettre. Quel que fût l'aveuglement de Madame Verdurin à son égard, elle avait fini, tout en continuant à le trouver très fin, par être agacée de voir que quand elle l'invitait dans une avant-scène à entendre Sarah Bernard, lui disant pour plus de grâce « Vous êtes trop aimable d'être venu, docteur, d'autant plus que je suis sûre que vous avez déjà souvent entendu Sarah Bernard, et puis nous sommes peut-être trop près de la scène », Le docteur Cottard, qui était entré dans la loge avec un sourire qui attendait pour se préciser ou pour disparaître que quelqu'un d'autorité le renseignât sur la valeur du spectacle, lui répondait « En effet, on est beaucoup trop près et on commence à être fatigué de Sarah Bernhardt. Mais vous m'avez exprimé le désir que je vienne. Pour moi, vos désirs sont des ordres. Je suis trop heureux de vous rendre ce petit service. Que ne ferait-on pas pour vous être agréable ? Vous êtes si bonne. » Et il ajoutait « Sarah Bernhardt, c'est bien la voix d'or, n'est-ce pas ? On écrit souvent aussi qu'elle brûle les planches. C'est une expression bizarre, n'est-ce pas ? » Dans l'espoir de commentaires qui ne venaient point. « Tu sais, avait dit Madame Verdurin à son mari, je crois que nous faisons fausse route quand par modestie nous déprécions ce que nous offrons au docteur. C'est un savant qui vit en dehors de l'existence pratique. Il ne connaît pas par lui-même la valeur des choses et il s'en rapporte à ce que nous lui en disons. » « Je n'avais pas osé te le dire, mais je l'avais remarqué, répondit Monsieur Verdurin. Et au jour de l'an suivant, au lieu d'envoyer au docteur Cottard un rubis de 3000 francs en lui disant que c'était bien peu de chose, M. Verdurin acheta pour 300 francs une pierre reconstituée en laissant entendre qu'on pouvait difficilement en voir d'aussi belle. Quand Mme Verdurin avait annoncé qu'on aurait dans la soirée M. Swann, « Swann ?» s'était écrit le docteur d'un accent rendu brutal par la surprise, car la moindre nouvelle prenait toujours plus au dépourvu que quiconque cet homme qui se croyait perpétuellement préparé à tout. En voyant qu'on ne lui répondait pas, « Swann ? Qui ça, Swann ?» hurlait-il au comble d'une anxiété qui se détendit soudain quand Madame Verdurin eut dit « Mais l'ami dont Odette nous avait parlé. » « Ah bon, bon, ça va bien, » répondit le docteur apaisé. Quant au peintre, il se réjouissait de l'introduction de Swann chez Madame Verdurin parce qu'il le supposait amoureux d'Odette et qu'il aimait à favoriser les liaisons. « Rien ne m'amuse comme de faire des mariages », confia-t-il dans l'oreille au docteur Cottard. « J'en ai déjà réussi beaucoup, même entre femmes. »
« Je ne mâche pas mes mots, je ne mâche pas s'il m'arrive d'être foudroyé par l'éclair au chocolat. Très souvent je me raisonne avant de replonger mon doigt dans la marmelade pomme préparée a cappella sur le piano rouge. Si la seule vue du miel suffit à clarifier ma voix, l'aspartame à sa mémère n'édulcorera pas la colère de voir sous la princesse un petit poids.
Nous venons d'entendre, lu par Lou Doyon, un extrait d'Un amour de Swann, l'éclosion de l'amour, avec vous, Véronique Auboui, Proust numéro 2. Depuis quand êtes-vous amoureuse de Marcel ? Comment tout cela a-t-il commencé pour vous ?
Alors, ça a commencé il y a très très longtemps, en fait. Est-ce que j'ose le dire, en 87, quand j'ai lu pour la première fois... En fait, je suis partie faire un voyage en solitaire pendant un an en Amérique du Sud. Et j'avais emporté dans mon sac à dos, au fond, comme ça, comme une sorte de viatique. Et aussi, je me disais que peut-être à un moment, j'en aurais besoin de quelque chose de très français. J'avais commencé à lire La Recherche et je savais un peu de quoi le début parlait, l'enfance, la grand-mère. Et de fait, au bout de 6 mois, j'étais assez jeune et j'avais besoin de retrouver mes parents. Enfin, et du coup, j'ai sorti le livre et j'ai été happée. Et depuis, il ne m'a jamais quittée. C'est-à-dire que donc, j'ai demandé à maman de m'envoyer le tome 2 à une destination qui était, parce qu'à l'époque, voilà, c'était 1 mois et demi la lettre, aller 1 mois et demi retour. Donc je me suis projetée 3 mois plus tard. J'ai choisi Quito. Et donc, quand je suis arrivée à Quito, poste restante, il y avait un nombre de jeunes filles en fleurs qui m'attendaient.
Et depuis, ça n'a jamais cessé.
Ça n'a jamais cessé. C'est même de pire en pire. C'est-à-dire que c'est presque infini. Au début, j'ai pensé qu'il fallait absolument se débarrasser de cette obsession. Et puis après, je me suis dit que non, en fait. Enfin voilà, j'ai continué.
Obsession ou amour ?
Amour. L'amour est venu. Je pense que l'amour est venu avec le temps. Et que au départ, c'était plutôt vraiment cette idée de comprendre ce qui s'était passé quand je l'avais lu. Je voulais savoir pourquoi j'étais à ce point prise par le livre, pourquoi il m'était si important. J'étais jeune et j'ai senti à quel point il avait déterminé des choses qui m'étaient arrivées dans ma vie plus tard. Ma vocation de cinéaste, par exemple. Enfin, pas la vocation vraiment, mais en tout cas la manière dont j'allais aborder le cinéma. Comment j'allais tourner mes films, ce que j'allais faire avec mes films.
Vous avez vu le monde grâce à la lecture de Marcel Proust.
Oui, je pense, oui. Oui. En fait, c'est pas moi d'ailleurs qui l'est. C'est quelqu'un qui me l'a dit, qui a vu un film que je montrais au Certain Regard à Cannes, un court-métrage, et qui m'a dit, mais c'est un film totalement proustien. Et là, j'ai compris. Et je me suis dit, mais voilà, c'est pourquoi ? Pourquoi ça m'est arrivé ça ? Pourquoi c'est aussi important ?
C'est-à-dire que Proust s'est insinué à l'intérieur de vous sans crier gare.
Oui, ouais, vraiment. Et après, ce sont les résonances toujours dans la vie qui sont là. C'est-à-dire que par exemple, il donne des clés pour lire le monde. C'est pour ça d'ailleurs que, enfin, c'est d'ailleurs ce qu'il dit à la fin de son livre quand il dit voilà, mes lecteurs ne seront pas mes lecteurs, mais ce seront les propres lecteurs d'eux-mêmes. C'est-à-dire que mon livre sera comme un verre grossissant grâce auquel ils pourront lire en eux-mêmes. Et s'ils se reconnaissent, si c'est bien d'eux dont je parle dans mon livre, alors j'aurai réussi, c'est ça. Et si par contre ils ne se reconnaissent pas, il est possible que le verre grossissant que je leur prête pour lire en eux-mêmes ne marche pas avec eux, ce n'est pas grave, ils en prendront un autre.
Donc il faut lire Marcel Proust pour ensuite s'en débarrasser, pour pouvoir recommencer à le lire d'une certaine façon.
Oui, on peut imaginer. Moi, je n'ai jamais fait l'expérience qu'ont fait plein de Proustiens, enfin de pas de Proustiens, mais en tout cas des lecteurs qui adorent Proust. Je pense à Mathieu Riboulet, dont j'étais très proche, et lui lisait tous les 10 ans. Et à chaque fois, il y avait une sorte de bilan comme ça dans sa vie qui se créait. Comment il avait changé depuis la lecture précédente.
Oui, parce que Proust nous fait changer. Alors, vous évoquez Mathieu Riboulet, vous avez coécrit avec lui un très bel ouvrage qui s'intitule « Sur la lecture ». Je vous propose d'écouter la voix de Mathieu Riboulet qui va parler de la notion de rêverie dans la recherche du temps perdu. C'était une archive du 12 novembre 2014.
Parce que au fond... on parlait tout à l'heure de l'importance qu'avait eu la lecture de la recherche pour mon propre travail, par exemple. Mais la question de la rêverie est en effet absolument centrale là-dedans. Je pense que d'avoir comprendre ce mécanisme de la rêverie que Proust décrit si bien, par exemple, toutes les rêveries autour des noms, toutes les rêveries autour des lieux, tout ce rapport très subtil qu'il ne cesse de décrire et d'approfondir justement entre les noms et les choses, les noms et les choses qu'il recouvre. Tous ces petits éléments-là qui font que l'écrivain finalement dessine une espèce de réalité juste au-dessus du réel qui fait l'essentiel de la littérature. Ça, c'est une chose que, évidemment, Je lui dois, et je pense qu'on est nombreux à lui devoir, bien sûr, mais dont j'ai essayé de reprendre, disons, les principes, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, presque sans m'en rendre compte, simplement en me livrant à mon tour à cette activité de la rêverie, qui est quand même une des plus belles choses qu'on puisse faire.
Alors vous, Véronique Auboui, vous avez avalé Proust, on peut dire ça, non? Vous l'avez incorporé, vous l'avez avalé. Il est où à l'intérieur de votre corps, Marcel?
C'est difficile de répondre à cette question comme cela. Ce qui est sûr, c'est que je suis... En fait, c'est un peu comme... Je le vis à chaque fois. Je le vis.
Vous êtes Marcel?
Je suis le narrateur. C'est pas pareil. Pas du tout, en fait. Donc... Mais je vis le livre, je vis... quand je fais cette performance, donc pendant une heure...
Alors il faut expliquer, oui. J'ai eu la chance de pouvoir vous voir, mais d'ailleurs les auditrices et les auditeurs qui seraient intéressés pourront continuer à venir vous voir ou vous découvrir à la Maison de la Poésie à Paris, parce que très régulièrement, et ce depuis 3 ans, vous êtes Marcel Proust. Sans notes, vous arrivez avec La Recherche du Temps Perdu en quarto. C'est assez lourd, vous le dites au début quand vous arrivez dans la salle parmi nous. Vous demandez aux personnes qui sont là s'ils ont des fragments de la recherche qu'ils auraient envie d'écouter. Donc par définition, vous ne pouvez pas savoir ce qu'on va vous demander. Vous les notez dans un petit carnet et top chrono, pendant une heure, vous allez... vous allez dire par cœur des fragments de la recherche. Ça veut dire que les 3000 pages, vous les connaissez par cœur.
Non.
C'est ça?
Non.
Comment non?
Non, pas du tout. D'abord, je continue à découvrir des trésors insoupçonnés. Parce que ma manière de me préparer pour cette performance, qui est vraiment une performance au sens où elle est totalement improvisée, bien sûr, puisque je ne sais pas... D'abord, ça dépend de mon humeur aussi. Ça dépend de... Par exemple, une fois, je suis arrivée, j'avais très mal aux jambes. Et alors, j'ai fait toute la performance assise. Et le public m'a demandé plutôt des scènes qui portaient sur la question de la vieillesse, de la mort, de la mémoire. Et donc, voilà, c'était très différent de ce que vous avez pu voir l'autre soir. Et donc, c'est une performance. Comment dire ? Je ne mémorise en fait que des mots ou des expressions, mais le reste, c'est ma langue à moi.
Bah, vous faites la modeste. Alors, vous allez nous donner un petit exemple de votre art proustien. Si je vous dis, j'aimerais bien que vous nous parliez de la jalousie dans la recherche. C'est un thème vaste.
Oui.
Mais... On va le rencontrer durant tout au long de cette semaine, puisqu'on a choisi donc Un amour de Swann. Alors là, vous improvisez, vous n'avez pas de papier, vous n'avez rien dans les mains. Et qu'est-ce que vous me répondez?
Alors d'abord, il faut que je me remette dans le rôle, parce qu'il y a une chose très importante, puisqu'on en parlait tout à l'heure sur cette question du lecteur qui lit en lui-même, ce que je suis en fait. Moi, je suis ni plus ni moins une lectrice de Proust. C'est ça, principalement. Je suis une simple lectrice. Alors, donc, je vais dire « je ». Hein. Sauf que là, en l'occurrence, il s'agit de Swann. Donc, ça sera « il » aussi. Alors, pour la jalousie, il y en a des scènes. Mais je pourrais vous dire que que ce qui se passe en fait, c'est que avec l'amour, la jalousie commence à titiller Swann. Il pense que Odette a des amants et donc il la soupçonne. Alors un jour où il l'a déposée devant chez elle, comme tous les soirs après la soirée des Verdurin, d'habitude, ils ont l'habitude de rentrer chez elle. Et de faire un petit catléia. Et là, elle lui dit qu'elle a la migraine et qu'elle veut se coucher. Voilà. Elle préfère qu'il rentre chez lui. Ce qu'il fait, mais au bout d'un moment, il demande à son cocher, Rémi, de faire demi-tour et il retourne sous les fenêtres d'Odette à la rue La Pérouse. Et évidemment, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit qu'à travers les volets, il y a de la lumière. Elle n'est pas du tout endormie. Ce sont les fenêtres de sa chambre. Et donc, il fou de jalousie, tant pis, au risque de paraître ridicule, il se met à cogner sur les volets et à frapper. Et au bout d'un moment, et en plus, il entend des voix d'hommes à l'intérieur, évidemment. Alors, au bout d'un moment, les volets s'ouvrent et il tombe devant deux hommes qu'il ne connaît absolument pas. Et surtout, c'est pas du tout l'intérieur chinois qu'affectionne Odette, enfin son intérieur qu'il connaît si bien. C'est un autre appartement, en fait. Dans son trouble, il s'est trompé de volet. Et donc, ce soir-là, il repart chez lui en se disant, mais heureusement, en fait, qu'on n'a pas été témoin de ça.
Alors voilà, vous venez d'improviser une séquence de jalousie dans un amour de Swann. Et avec vous, ce qui est merveilleux, Véronique Aubouy, c'est qu'on est avec Marcel Proust et on est dans la recherche. C'est pas tout à fait la même expérience qu'on vit quand on lit seul, par définition, en tête à tête avec nous-mêmes, la recherche. Avec vous, vos mots, votre corps, votre manière de bouger, nous font entrer dans l'univers sensible de Marcel Proust. C'est-à-dire que les saveurs, les odeurs, les postures du corps, les émotions, tout ça nous assaille encore plus. Est-ce que vous vivez votre passion Marcel Proust comme celle d'un guide, d'un transmetteur de mémoire ou quelqu'un qui est quand même à côté pour nous introduire dans quelque chose qui est peut-être insoupçonné?
Alors, ce qui est amusant avec cette performance d'une heure, c'est que d'abord, il faut faire vite, il faut traverser toute la recherche. Donc, a priori, il faut aussi vraiment raconter les scènes en les survolant presque. Et en même temps, il y a cette envie de rentrer dans le fameux détail proustien, c'est-à-dire de rentrer vraiment dans des scènes. Et là, on perd beaucoup de temps, évidemment. Là, je me retrouve avec un quart d'heure brusquement qui a disparu parce que j'ai été trop dans le détail. Mais c'est vrai que là est mon vrai plaisir. Parce que moi, ce qui m'intéresse, de toute façon, aussi bien dans mon travail de cinéaste aussi, de performance, parce que je fais aussi d'autres choses à côté, je travaille toujours sur cette manière, cette envie de faire lire, enfin de vivre un livre autrement. Ce sont des tentatives. Là, avec ce livre-là, c'est évident que quand je suis en train de raconter, je le vis, je le vois dans ma tête, je le fais, enfin je suis dedans, et donc je retrouve ce bonheur de la lecture. Exactement, enfin je suis à cet endroit-là. Après, il arrive que, il y a des performances où il y a beaucoup de mots de Proust qui sortent, et à ce moment-là, je suis vraiment en plein bonheur. Et puis, il arrive que, ce soit plus mon langage à moi, comme ce que j'ai fait tout à l'heure d'ailleurs. Et c'est aussi bien, mais c'est différent.
Alors Jean-Yves Tadié nous rappelait hier qu'il y a beaucoup de clichés qui courent sur l'écriture de Marcel Proust, notamment celle de ses phrases interminables qui lui ont d'ailleurs valu beaucoup, beaucoup de mépris au moment où il a commencé à essayer de publier. Or, vous, Véronique Aubouy, vous portez en charge le style de Marcel Proust. Et avec vous, on ressent, quand on vous écoute, une sorte de fluidité dans l'écriture qui est peut-être... pas aussi évidente quand on lit soi-même. Pourquoi, à votre avis ?
Eh bien, parce que ça, c'est vraiment le bonheur, enfin, plus que ça, l'exaltation de l'improvisation. C'est-à-dire que j'ouvre une scène, et puis après, je m'aperçois que j'ai oublié de donner un détail sur un personnage, par exemple. Pour le spectateur, je raconte une autre scène qui est avant, et puis cette scène-là, on ouvre une autre, qui en ouvre une autre, ce sont des boîtes comme ça qui se suivent, et mon grand plaisir d'acrobate, c'est de retomber à la fin de la grande digression, qui parfois dure 5, 7, 10 minutes, de retomber à l'endroit et de reprendre le récit. Et je pense que ça me vient de lui. C'est quelque chose, c'est une gymnastique que j'ai apprise en le lisant. Et vraiment, c'est lui, clairement. Il fait ça, c'est-à-dire que et c'est nécessaire en fait, c'est nécessaire pour faire comprendre la complexité de l'âme. C'est-à-dire que vraiment, il en a besoin pour faire exister ces personnages et pour donc nous faire exister nous dans notre complexité, dans voilà.
Alors à propos de vos sentiments, que vous a-t-il appris, Marcel Proust ?
Disons qu'au départ, ce qui est certain, c'est que il m'a appris ce rapport au temps, tout simplement. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire des films, j'avais déjà, grâce à lui, une forme de liberté par rapport au temps. Et après, c'est venu aussi dans ma propre vie, dans tout ce que j'entreprends. Le temps ne me fait absolument pas peur. Et ça, c'est vraiment. Vous savez que la fin du roman, c'est incroyable, parce que la toute fin du roman se situe bien après sa mort. C'est-à-dire que son roman embrasse presque un siècle, enfin un peu moins. Entre l'histoire de Swann, qui est bien avant sa naissance, la naissance du narrateur, et cette fameuse scène chez la princesse de Guermantes, où tout le monde est vieux. Et donc, il y a quelque chose comme ça qui tend la main dans le temps, qui ne... J'ai senti qu'il venait jusqu'à moi. Ça m'a donné une grande force, en fait, pour vivre ma vie.
Comme une recherche d'immortalité.
Oui. D'ailleurs, j'ai rencontré sa petite cousine, Madame Annette Mann, qui est une dame merveilleuse, qui vit toujours d'ailleurs. Elle est née un an avant que Marcel Proust ne meure. Et ce qui m'a surpris, c'est que quand je suis allée la voir, c'était du temps de la main. Enfin, c'était comme s'il était là. Bien que, enfin voilà, il y a toujours cette notion de que le temps, enfin voilà, la vie est plus grande en fait. Il y a la vie avant nous et puis il y a la vie après nous et tout ça c'est nous.
Et il y a la vie vécue et il y a la vie écrite. Et la vie écrite est plus intéressante que la vie vécue, même si il faut essayer de puiser dans la vie vécue des fragments pour pouvoir construire la vie écrite.
Oui, mais il y a aussi effectivement après là. La vie vécue après les livres, c'est-à-dire voilà tout ce que les livres nous apprennent réellement. Et moi, je suis vraiment très. Moi, je pense que j'ai lu. Bien sûr, j'ai lu beaucoup de livres, mais
pas seulement Marcel.
Non, mais celui-là me suffirait amplement.
Dans une île déserte.
J'y trouve tout, bien sûr, dans une île déserte, oui. Mais j'y trouve tout, en fait. J'y trouve tout. C'est infini. À chaque fois que pour me préparer pour mes performances, le seul travail de préparation que j'ai, c'est dans la journée, je ne fais rien d'autre que penser au livre et puis le regarder, enfin ouvrir des pages au hasard, trouver des scènes en me disant tiens, ça c'est une scène que je n'ai jamais racontée, je vais essayer de la raconter et me mettre dans la musique, surtout de la langue, pour que le rythme, enfin la musique soit là.
Qui peut lire Marcel Proust ? Expliquez-nous votre projet qui a commencé maintenant, je crois, il y a 27 ans. Vous avez décidé de demander à toutes les personnes que vous rencontriez de lire Marcel Proust.
Alors, ça, c'est un film qui est, alors, c'était à l'époque où donc j'étais obsédée et pas amoureuse, comme vous diriez. Et donc je m'étais dit, il faut absolument que je me débarrasse de cette obsession. Je ne peux pas lire tout le temps ce livre-là. Il y a d'autres livres à lire, il y a d'autres choses à faire que lire à la recherche du temps perdu. Alors je me suis dit, ben voilà, je suis cinéaste, je vais faire un film. Et tout de suite, ça a pris quelques secondes en fait. L'idée m'est tombée dessus. De faire tout lire. C'était la seule manière, finalement, d'abord de retrouver le narrateur de la recherche, qui est le lecteur, qui est celui qui vit, voilà, qui le narrateur. Et puis, surtout, de ne pas. Je voulais pas de surplomb. J'essaye toujours de ne pas faire d'interprétation ou de surplomb. Même dans la performance, j'essaye vraiment de me situer au niveau du texte. Et là, donc, la lecture à plat, par des gens de tous horizons, de tous milieux, des gens qui ne lisent pas forcément très bien, mais qui lisent en tout cas tout droit. Voilà, on avance dans le livre petit à petit. Donc j'ai commencé le 20 octobre 1993. Et aujourd'hui, il doit y avoir à peu près 1400 liseurs, un peu partout. Ça fait un film qui dure 136 heures aujourd'hui, hein, qui est toujours plus long, bien sûr. J'ai filmé un peu partout où j'allais, en fait. C'est devenu ce film m'accompagne. J'ai toujours mon livre et ma caméra. Et donc, pendant les voyages, ou des gens qui... Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et qui me demandent d'être dans le film. Donc, je rencontre aussi des gens. Et à chaque fois, c'est... Quand on projette le film, évidemment, la projection, donc 136 heures, ça veut dire que si, par exemple, on commence le film le lundi à 18 heures, il se termine le samedi dans la nuit, vers 3-4 heures du matin, dimanche. Et ça veut dire aussi qu'on voit le temps, bien sûr, le temps défiler. Le premier tome est un tome qui, pour moi, a un aspect complètement primitif, préhistorique, dans la mesure où il a été tourné en analogique, en HI8, c'est-à-dire qu'il y a un grain. Et comme pendant longtemps, je n'ai pas... Pendant longtemps, j'ai considéré que c'était un geste. Et donc, je n'ai pas converti en digital le premier tome avant longtemps. Et alors, il est tout jaune, tout passé. Et puis après, on voit petit à petit l'évolution. Alors, l'évolution des modes, des mœurs, même des manières de lire des lecteurs. Et puis aussi, on voit l'évolution du médium, c'est-à-dire on voit la vidéo qui devient de plus en plus colorée.
Ben, vous accepteriez qu'on mette une partie de votre film, voire l'intégralité, sur notre site?
L'intégralité, c'est compliqué. Techniquement, c'est compliqué.
Un petit bout d'éternité.
Mais oui. Vous, peut-être justement du côté de chez Swan, qui est ce fameux premier tome que j'aime tant et dans lequel je m'enlise toujours quand je fais ma performance.
Pourquoi?
Parce que c'est surtout Combray, en fait, qui me... Combray me touche toujours.
Vous trouvez qu'il y a des nœuds dans la recherche?
Des nœuds?
Des nœuds, oui, c'est-à-dire des moments où on bute, nous, en tant que lecteurs, où il faut revenir en arrière pour pouvoir, comme un cheval, franchir l'obstacle et aller un peu plus loin.
Mais disons que moi, j'ai eu ce nœud-là avec le côté de Guermantes, ce qui n'était pas le cas de Mathieu Riboulet, qui, à l'inverse, adorait ce tome. Moi, j'ai eu vraiment du mal, là. Donc, il a fallu, effectivement, comme vous dites, que j'y retourne. Mais Combray, je le lirais en boucle si je pouvais. Je trouve que déjà tout le livre est là dans ce premier chapitre.
Ah, vous pensez qu'il y a des espèces de pastilles comme ça de concentrés proustiens à l'intérieur de la recherche?
Oui, mais disons que c'est-à-dire que je pense que Combray c'est ce qu'il a eu le plus de mal à trouver, en fait. Il a passé sa vie, n'est-ce pas, à vouloir écrire ce livre. Et le début, l'incipit, c'était vraiment la difficulté, en fait. Parce qu'une fois qu'il l'a eu trouvé, après, c'est parti. Et dans Combray, il y a cette chose essentielle, bon, qui est le jeu, qu'il a trouvé, bien sûr, mais il y a aussi la nuit. C'est-à-dire que ça donne tout le prisme du livre qui est comme une grande nuit. Une grande nuit du temps. Et moi, ça me bouleverse.
Et si on terminait cette seconde émission en vous écoutant, si je vous dis la nuit dans la recherche?
La nuit. Alors vous savez que mon public, je le gronde quand il me demande des choses aussi vastes. Je dis non, je veux une scène.
Alors je vais vous demander l'heure bleue dans la recherche. Pour affiner.
Mais oui. Albertine, je viens d'apprendre qu'Albertine est morte. Elle a eu un accident de cheval et c'est un télégramme qui me l'a appris de Madame Bontemps, sa tante. je n'arrive plus à bouger. Je suis dans mon appartement. Et le jour est tellement lent à mourir. Il aquarelle le mur blanc d'en face. Et ce mur blanc ne reste blanc jusqu'au dernier moment. C'est-à-dire que je n'arrive pas à trouver la nuit. Et quand j'y arrive enfin, quand il fait vraiment nuit, je me déplace dans le couloir, je me cogne contre les murs. Et à un moment, il y a encore de la lumière. Vous savez, au-dessus de la porte, il y a une sorte de vitre avec un bleu qui est coupant comme une aile d'insecte. Il reste encore cette lumière de l'escalier. Je n'arrive pas à trouver l'obscurité.
Pour moi, l'œuvre de Proust ne me donne pas, ne m'a pas donné, du moins quand je l'ai abordée, ce contentement extasié. Je me souviens très bien lorsque j'ai lu pour la première fois Proust, il y a déjà un certain nombre d'années.
Michel Butor.
J'ai eu assez de difficultés à entrer à l'intérieur de ce monde parce que il y avait trop de choses qui étaient étrangères à mon expérience d'alors. Tout le côté Faubourg Saint-Germain, mondanité, belle époque, si vous voulez, de l'œuvre de Proust, étaient pour moi des obstacles considérables. C'est seulement au bout de 1000 pages, à peu près, que j'ai commencé à trouver ça intéressant. Et au bout de 2000 pages, j'ai trouvé ça passionnant. J'ai trouvé ça tellement passionnant que je me suis mis à l'étudier. Et depuis, j'ai recommencé cette étude un certain nombre de fois. D'ailleurs, ces études m'ont amené à écrire un certain nombre de textes sur l'œuvre de Proust. Il est certain qu'à partir du moment où je me suis mis à vraiment trouver que ça valait la peine d'être étudié, eh bien, l'œuvre de Proust a eu pour moi un enseignement considérable. Il y a des quantités de choses que je n'aurais jamais faites si Proust n'avait pas existé, si je n'avais pas lu Proust. Proust a été certainement pour moi un soutien considérable. Alors, pour essayer de dégager les lignes principales de cet enseignement, ça, c'est quelque chose de très difficile. Il y a un premier enseignement qui est un enseignement, je dirais, un enseignement technique sur la façon de faire un livre. Ce qui s'est mis à m'intéresser vraiment dans l'œuvre de Proust, c'est son caractère architectural. Et ce caractère architectural, il ne se dégage que très lentement. Proust admirait beaucoup Monet, et il y a une série de toiles de Monet qui l'a particulièrement inspiré. C'est la série de toiles sur la cathédrale de Rouen. Cette image de la cathédrale ou de l'édifice qui apparaît peu à peu à travers un brouillard, cette image, on va la retrouver très souvent dans À la recherche du temps perdu. Et à la fin, naturellement, Proust comparera sa propre œuvre à une cathédrale d'une part, et aussi, comme vous le savez, à une robe. Eh bien, évidemment, cette cathédrale qu'est l'œuvre de Proust est une cathédrale qui apparaît peu à peu dans la brume. C'est une œuvre, par conséquent, qui exige de la part de son lecteur un certain temps. Elle est longue, elle est fondamentalement longue, parce que il faut absolument que le lecteur approche peu à peu devant cet édifice. Il faut que, par conséquent, cet édifice soit caché par quelque chose, caché par une brume qui est, cette brume qui peut être exquise, mais cette brume des premiers moments de la lecture de Proust. C'est peu à peu seulement qu'on voit les lignes, les masses s'ordonner. C'est à partir de ce moment que, vraiment pour moi, il y a eu un enseignement considérable.
On perd de l'altitude, toi et moi. Loin de nous, ni l'un ni l'autre n'ira. On perd notre aptitude, celle qu'on avait à rester fier. Ni l'un ni l'autre ne l'a. On perd notre aptitude.
notre temps à se perdre tout le temps. Loin de nous, ni l'un ni l'autre n'ira. Perdu, perdu, perdu dans. Perdu. Tous ces gens m'avaient prévenu. Mon dessin, on l'a voulu. Perdu. Sans s'entendre sur notre but. On s'ennuie fort, on se tue. Perdu. 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 Tous ces gens m'avaient prévenu. Mais ces derniers mois, j'ai flanché loin de toi, loin de moi, sans prendre la mesure de ce qui m'arrivait. Et c'est arrivé sans le voir venir. Notoriété oblige, j'y prends bien du plaisir, même si j'y perds ma liberté. Vouloir trop réussir, la pression du succès des gens, les autres. Donc qu'est-ce qu'on va devenir? Perdu, tous ces gens m'avaient prévenu.
C'est avec Perdu que nous nous quittons ce soir. Merci aux éditions Gallimard. Je rappelle que l'ensemble des tomes de À la recherche du temps perdu sont édités en folio, que Véronique Auboui continue chaque mois ses performances d'amour pour Marcel. La prochaine, ça sera à Paris, à la Maison de la Poésie, les 8 et le 24 janvier prochains. Merci à Lou Doyon qui nous accompagne chaque soir. Merci à Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Louise Douillet. Merci à Jean-Baptiste Audibert et merci à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Nous espérons vous retrouver demain pour Du côté de chez Marcel numéro 3. Et après le prochain flash d'information, vous avez rendez-vous avec Mishka pour son Very Good Trip.